tu commences par cette tourelle qui est une très belle. Alors, après, tu prends une autre tourelle.
Sur la façade, et là ils l'ont fermé, c'est dommage. Voilà. Donc Ungomar. Oui, alors Ungomar, donc j'ai dit que Ungomar, le promoteur, l'auteur de cette célèbre cité ouvrière. Un petit mot sur les cités à Chilpikai. Chilpikai, une grande ville ouvrière.
Hein. S'il vous plaît.
Oui,
on a un peu de mal avec les voitures.
Venez vers moi, monsieur. Venez. Je vais essayer de crier un peu plus. Il faut le dire, oui. Donc je disais, Chiltikheim, cité ouvrière, hein, grande cité ouvrière, les 9 dixièmes de la population sont pratiquement tous des ouvriers. On peut quand même remarquer qu'il n'y a pas d'habitat ouvrier, il n'y a pas de cité comme à Mulhouse par exemple, de grandes cités ouvrières. Bon, il y a bien sûr Ungomar, sur des petites maisons, on n'accueille pas tellement de monde finalement. Et c'est assez intéressant de voir que Chiltikheim a connu une crise du logement populaire pendant tout le XXe siècle. Il y a eu quand même donc un petit essai de Ungomar avant 1914. C'est une cité qui se trouve, c'est quelques bâtiments, rue de la Paix, à l'ouest de Chiltikheim, quelques appartements, quelques dizaines d'appartements. Par contre, il y a eu un grand projet qui a été réalisé, c'est la fameuse cité, que j'appelle cité Sorgus, construite par le maire Sorgus en 1935, qui se trouve donc en bas, donc où s'arrête le tram Futura. Hein. Vous voyez, une grande cité de ce côté-là. Il n'y a pas les bâtiments modernes pour les trams, mais à l'arrière, il y a une grande cité de 400 à 500 logements populaires, construite donc en 1935, et qui est donc la seule et la très grande cité ouvrière de Chiltikheim. Sinon, tout le reste, c'est un tissu de petites maisons, d'appartements locatifs, de maisons locatives, d'appartements, donc à travers toute la ville. Hein. Mais il faut se rappeler que beaucoup d'ouvriers n'habitaient pas à Chiltikheim, habitaient ailleurs, à Strasbourg, ou dans les villages environnants. Voilà. Alors, on se retourne vers ce petit monument, qui n'est pas si petit que ça, qui fait 40 mètres de haut, qui est ce qu'on peut appeler un véritable château. Allez, on n'a pas de palais, pas de château, mais nous avons des châteaux d'industrie. C'est un château d'industrie, c'est magnifique. Vous voyez le même travail, donc c'est la malterie construite par l'architecte Langlotte de Francfort, début du siècle, 1912. Malterie extraordinaire, une fois de plus un décor magnifique, sobre, élancé, les corniches, hein, les aisselles, les fenêtres, et puis bon, vous ne les voyez pas d'ici, vous les avez vus avant, avec les deux cheminées qui tournent, hein, les assoufflées, hein. Donc c'est la malterie, et c'est intéressant parce que cette malterie, c'est la seule qui soit restée intégrée à la brasserie, c'est la seule qui est fonctionnelle jusqu'en 2000. On se rappelait qu'à l'origine, quand les brasseries s'installaient à Chiltikheim, elles venaient avec leur propre malterie. On a vu une malterie à Schützenberger fermée, hein, mais très vite, les brasseurs ont fermé leur malterie intégrée dans l'usine pour la simple raison que le malt était moins cher si on l'achetait chez les malteurs indépendants. Donc Chiltikheim était truffé de malteries. Il y en a une à côté, donc, les frères Götz, je vous en parle tout à l'heure, c'était allié avec la maison Etel. Maison Etel avait une autre malterie du côté de la rue principale. Tout Chiltikheim était truffé de malteries, rue de la malterie, de malteries, place de l'Hôtel de Ville, une immense malterie. Voilà, donc malterie indépendante. Sauf Fischer, qui a gardé sa malterie, qui à l'époque était très moderne, puisque le malt allait sur pneumatique, par air soufflé. Hein. Circulait par air soufflé. C'était une malterie extrêmement moderne. Et Fischer s'est servi de cette malterie jusqu'en 2000. Ils ont fermé la malterie. Alors, à côté de cette malterie, vous avez un petit bâtiment tout à fait néo-alsacien. Hein, donc on a fait le siècle 19e, 20e siècle, c'est aussi connu pour ses renaissances architecturales, nouveaux styles, etc. Nous avons quelques maisons Jugendstil, c'est le style le plus intéressant, je dirais, mais surtout à Strasbourg. Nous avons aussi du néo-roman, du néo-gothique et du néo-alsacien. Voilà, du néo-alsacien, en l'occurrence, c'est la Fischerstube, la taverne, l'auberge Fischer, qui fait partie de la brasserie, est également donc très intéressante, qui date de 1900. De 1900, je vais vous dire ça, 1905, 1902. Soyons précis dans les dates. La Fischerstube. Bon, je vous dirai tout à l'heure. Non, 1905. Ce qui est intéressant, je reviens à ma philosophie patronale, paternalisme, modernisme, solidarité. Et ici, cette auberge a la particularité d'avoir été bâtie avec à son arrière des salles de bain. Il y a 6 salles de bain ouvertes à tous, y compris aux ouvriers, et donc salles de bain. Et qui dit salle de bain, c'est intéressant. Il faut quand même se rappeler qu'aujourd'hui, les salles de bain, qu'est-ce que vous faites? Vous ouvrez le robinet, vous avez de l'eau chaude. À l'époque, les maisons n'avaient pas d'eau chaude, très peu. Hein, alors que les usines ont de l'eau chaude. Conclusion, on peut donc chauffer les salles de bain pour de l'eau chaude. Et là aussi, donc, voilà un aspect. Un très bel aspect de d'hygiénisme de l'époque, les salles de bain. Hein, les salles de bain. Alors, est-ce que Roland est là? Roland, oui. Tu as fréquenté ces salles de bain?
Oui.
Dis-nous un mot.
Oui.
Roland, tu as un vieux chiliquois.
Oui.
Non, c'est, oui, non
ben oui, il y avait des baignoires, hein, et puis c'était réparti en cabine.
Les baignoires.
Faire sa toilette.
Oui.
Le samedi.
Et c'était donc très fréquenté.
C'était comme les bains municipaux, mais privés, quoi. Comme les bains municipaux, c'était pas réservé à...
Non, tout le monde pouvait y aller.
Tout le monde pouvait y aller. Tout chiliquois ou vraiment que les ouvriers?
N'importe qui.
Tout le
monde. Oui, bien sûr. Elles sont toujours là, mais elles sont désaffectées. Par contre, la taverne fonctionne toujours très bien.
Hein. Ouais.
Et elle est très bien servie, c'est très copieux.
On mange bien.
On y mange bien, voilà.
Ouais.
Je parle de salle de bain. C'est aussi l'époque où, dans les années 1920, on a construit la très célèbre... on appelle ça les bains municipaux. Merci madame. Rue Saint-Charles, en face de la, là où il y a l'actuelle banque Caisse d'Épargne. Hein. Voilà, sur le terrain à Heineken aujourd'hui. Hein, donc il y avait des bains municipaux rue Saint-Charles. Donc c'est une époque très intéressante. On découvre pas uniquement les plaisirs de l'eau dans la baignade, puisque nous avons des bains de rivière sur l'Arve, etc. Mais aussi donc l'hygiène à travers donc les soins du corps grâce à ces salles de bain et à ces bains municipaux. Alors, un mot sur la brasserie. Donc la brasserie, elle a creusé sa cave en 1854. Elle s'est installée assez tard, puisqu'elle ouvre en 1884. Et là aussi, donc, idem, hier comme aujourd'hui, c'est les gros qui bouffent les petits. Qu'est-ce qu'elle a fait, la grande brasserie Fischer? Elle a bouffé, elle a absorbé la petite brasserie artisanale de la Hache. Je pense que c'est le bistrot La Hache, hein, qui existe, ouais, à Strasbourg en face de la...
Qui existait, il a changé de nom maintenant.
Ah oui, comment ça s'appelle maintenant?
Ah non, il a gardé le nom, c'est mais ça a complètement changé. Avant, c'était...
Oui, non, il faut plus de la bière.
C'est
oui.
Devenu une Bierstube un peu classe, quoi.
Voilà.
Donc, là, avant, c'était plus... Oui, le nom existe. Ouais.
La brasserie, enfin la brasserie, l'auberge, la micro-brasserie du Rhin, on l'a vu hier, rue principale, qui fait partie du foyer Soleil. La ville de Paris, qu'on verra tout à l'heure, une brasserie assez importante, la ville de Paris, qui sont à côté. En 1905, 155 ouvriers. J'ai oublié de vous dire que Ungomar était l'usine qui avait le plus grand nombre d'ouvriers, 500, plus de 500. C'était la plus grosse usine, entreprise, qui accueillait donc le plus grand nombre d'ouvriers. Ici, 155 ouvriers. En 1920, la plus forte production de bière, 200 000 hectolitres. En 1998, 1 300 000 pour 360 ouvriers. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, en 2012, Heineken ne fait que 1 700 000. Sur l'espérance, et Fischer en 1998, faisait déjà 1 300 000. Voilà, tant pis, Heineken l'a fermé, ça ne prend pas pour ça. Donc en 1995, Heineken rachète Fischer et fermera la brasserie en 2009. Voilà, c'est une autre façon de les gros qui bouffent les moins gros. Et puis on fait maintenant la bière Fischer ailleurs, en France ou ailleurs à l'étranger.
Ça s'appelait brasserie Fischer.
C'est la même chose, Fischer. Oui, donc ça dépend des époques. Quand on est allemand, ça s'appelle Fischer. Quand on est français, on s'appelle Pêcheur. Oui, c'est la même traduction.
Oui, mais il y a un historique. Là.
L'historique est politique. Alors, selon la volonté du patron et selon l'image qu'il doit donner pour vendre ou bien vendre, on s'appellera Fischer avant 14. On s'appellera après 18 Pêcheur pour faire plaisir aux nouvelles autorités. Et comme c'est intéressant aujourd'hui de prendre des noms folkloriques, exotiques, on s'appelle nouveau Fischer, parce que Fischer, ça vend mieux que Pêcheur. Voilà.
Il faut rappeler qu'ils ont quand même mangé d'abord Moutzig.
Ah, pas eux.
Heineken.
Heineken. Je t'en parle tout à l'heure.
Ils ont tout cannibalisé.
Absolument. Absolument. Absolument.
Des élus.
Non, c'est pas sûr, pas des élus. Non, pas du tout. Les grandes boîtes n'ont pas besoin d'élus pour racheter.
Hein. Ouais, ils ne sont pas trop opposés, en tout cas.
Non, que voulez-vous faire, c'est oui, privé.
Voilà,
hein. Vous voulez faire. Oui.
On n'a pas l'argent pour racheter.
On a déjà racheté Adelsof, la ville. Hein. Voilà. Hein, d'accord.
Les bains municipaux, on leur a donné.
Oui, effectivement, contre, il y avait des. Il y avait des échanges, voilà, il y avait un échange, oui. Les bains municipaux qui ont racheté donc Espérance à l'époque, à Heineken, pas encore à Heineken, c'était l'Espérance, il y avait un échange qui était prévu, ils auraient dû construire un musée de la bière. Hein. Ça ne s'est jamais fait, musée de la bière, voilà.
Le site a été déclassé que très récemment, c'est-à-dire que la contrainte d'être, la contrainte d'aller à Heineken de construire le musée de la bière existait toujours, ce site-là, quand ils ont regroupé toutes les entreprises, là, enfin, toutes les brasseries, ils n'avaient pas cette place, ils ont demandé qu'on déclasse le site et qu'ils puissent l'utiliser à autre chose.
D'accord.
Donc c'était resté inscrit dans les codes urbanistes pendant des décennies, et ça ne s'est jamais fait pour moi.
Voilà. Bien, je vous invite à avancer un tout petit peu à droite. Jetez encore un coup d'œil à la brasserie, les quelques bâtiments historiques qui existent encore.